masque, le gel et la plume. Bonjour à toutes et à tous, heureux et même rassuré de vous retrouver en ce dimanche 19 avril avec le cinquième épisode du Masque et la Plume pour temps de confinement consacré aujourd'hui aux films qu'on peut voir chez soi en DVD, Blu-ray, VOD avec chacun chez soi et tous ensemble, Camille Nevers de Libération. Salut Camille.
Bonjour Jérôme.
Xavier Le Herpeur de 7ème Obsession et d'une heure en série.
Bonjour Jérôme. Samedi...
Salut Xavier. Le samedi soir sur Inter. Jean-Marc Lalanne des Arts Occultiques est en pleine forme. Je le sens, je l'entends.
Absolument.
Je le vois. Et le doyen des masqués et plumés, Michel Simon, dont je n'ose plus prononcer aujourd'hui le nom de la revue, puisque c'est positif.
Bonjour tout le monde.
Mais pas testé.
Au programme des films d'autrefois, mais restaurés, remasterisés, ripollinés, qui rendront, je l'espère, votre confinement moins confiné. Autopsie d'un meurtre d'Otto Preminger, Ragtime de Miloš Forman, Le moment de la vérité de Francesco Rosi, La dame d'11 heures, mon petit préféré de Jean Devèvre, Terreur sur le Britannique de Richard Lester, expérience que n'a pas, je crois, voulu vivre Camille et Noces blanches de Jean-Claude Brissot, sans oublier vos précieux conseils de fin d'émission. Ici Radio France Inter, les cinéphiles parlent aux cinéphiles. Dans le courrier de la semaine, ça va faire plaisir à Xavier, à Jean-Marc, Johan, à Breton, confiné dans le 91, a trouvé le masque trop sévère avec India Song, le film de Marguerite
Duras. Ben voilà,
alors c'est vrai.
Je l'ai revu hier, me dit Johan, et il reste pour moi un chef-d'œuvre envoûtant et bouleversant. Pour peu qu'on accepte de se laisser porter par la poésie de ses voix intemporelles et sa musique entêtante, même sentiment de Michel Dédier, pour qui India Song est un objet artistique plein d'une grande poésie. Il m'a marqué à jamais. Daniel Vigneault de Paris tient India Song pour un de ses plus beaux films de la décennie 70. Que vous n'aimiez pas Duras, libre à vous, mais ne rigolez pas d'un film dont on garde 45 ans plus tard une émotion si forte. Malgré tout, longue vie au masque. Merci. Pour Alexandre Weinberg de Bruxelles, ce film est une expérience cinématographique. Il mérite toute notre considération. Il est magnifique par l'audace de son invention. Ce film au charme vénéneux, ajoute Cécilia, est un opium poétique qui empoisonne et soigne l'âme. Nous avons toutes et tous notre Inde irreconstituable dont l'image se superpose à notre décor quotidien. Ou encore Laurence Lafosse qui reproche au masque de n'avoir rien dit de ces acteurs merveilleux. Si peu de Michael Lonsdal et trop peu de Delphine Seyrig. Seul Xavier et Jean-Marc, un seul Madame Comanieki nous remercie. J'ai vu India Song il y a 29 ans, j'avais 17 ans, et ce fut un cauchemar, une torture. India Song reste mon pire moment de cinéma. Quel bonheur de vous entendre lui régler son compte. Grâce à vous, 30 ans plus tard, je prends ma revanche. Et merci, merci pour tous vos jolis messages de sympathie depuis que le masque et la plume est confiné. Je ne résiste pas au plaisir de vous citer cette semaine celui de Raphaël Le. « Cher masque, je t'écris de New York, où je finis mes études de droit. Quelle joie de découvrir la version téléphonique de ton émission, joie décuplée, car elle permet à mon père de continuer à me demander chaque semaine au téléphone, au fait, tu as écouté le dernier masque ? Merci donc, cher masque, de faire continuer ces échanges entre un père et sa fille qui se poursuivent au-delà de l'Atlantique et survivront à la pandémie. » Prenez bien soin de vous tous. Et on commence avec Autopsie d'un meurtre de Otto Preminger, un film qui fête ses 60 ans et que Carlotta ressort en Blu-ray et DVD. Film tiré du roman écrit par le juge John Volker après un meurtre réel commis en 1952 dans une auberge du Michigan. Avocat général retiré des affaires, Paul Bigler, c'est James Stewart, consacre comme Michel Simon l'essentiel de son temps à la pêche, tandis que son confrère Parnell McCarthy, c'est Arthur O'Connell, comme Xavier Le Herpeur, se noie dans l'alcool jusqu'au jour où Paul Bigler est appelé à prendre la défense d'un officier de l'armée, Frédéric Magnon, c'est Ben Gazzara, soupçonné d'avoir tué l'homme qui avait violé son épouse. Bigler et Parnell décident de plaider non coupable au prétexte que le lieutenant aurait tué sous l'emprise d'une impulsion irrésistible et non par vengeance. Bref, c'est le parangon du film de procès américain sur une musique signée, s'il vous plaît, Duke Ellington. Camille, est-ce que tu as revu, est-ce que tu as aimé Autopsie d'un meurtre ?
Oui, c'est un peu le film fétiche de toute une génération de cinéphiles, dont le premier était Serge Danet, qui adorait proprement ce film. Alors, c'est du Preminger, donc c'est toujours entre le suprême intellectuel et le grand spectacle hollywoodien. C'est un film très bavard, je pense que c'est aussi pour ça que Danet l'aimait, parce que ça parle beaucoup, parce que c'est un film de procès et d'avocat, et la parole est vraiment une actrice à part entière dans le flux du film. Après, moi, Preminger, qui est quand même un des plus grands cinéastes qui est jamais été. Il avait, à mon avis, deux sortes de films. Il avait une première partie qui était les films noirs, à tous les sens du terme, le genre du film noir, mais les actrices qui étaient brunes, les Tina Turner dans Laura, il y avait Ambre, c'était Linda Darnell, Dorothy Dandridge dans Porgy and Bess et Carmen. Et puis après, il est passé à des films, ce que j'appelle les films blonds, dont celui-ci fait partie avec Lee Remick, qui s'appelle Laura, mais qui est blonde. Il y a Jean Seberg dans Bonjour Tristesse, Eva Marissin, Marilyn, Caroline Light en Veillé. Enfin, il y a quelque chose chez lui de cinéma de la lumière, donc blonde ou brune, qui donne quelque chose de pas du tout manichéen chez lui, mais de tout à fait en vis-à-vis. Là, en l'occurrence, ce sont deux générations qui se regardent, la vieille génération hollywoodienne de James Stewart et Eva Arden, enfin les vieux briscards un peu alcooliques, un peu revenus de tout et qui rempilent pour rendre une dernière fois justice, et la jeune génération d'acteurs studio qui est rouée, qui est provocatrice, sexy et amorale, qui est représentée par Lee Remick, Ben Gazzara. Et ça donne quelque chose de très puissant. Et c'est un film très beau sur la mystification, en fait, parce que j'aime beaucoup la phrase de Jacques Courcel à propos du film qui, pour le résumer, dit qu'en gros, la pensée de Preminger, c'est qu'il vaut mieux prendre le risque d'innocenter un coupable que de condamner un innocent. Et c'est un peu ça, le film. C'est vraiment... Il avait déjà fait des films de procès, il a déjà fait Court Martial of Billy Mitchell ou dans une certaine mesure Jeanne d'Arc. Mais là, c'était plutôt du point de vue de l'incriminé, du coupable innocent. Alors que là, c'est vraiment l'avocat, James Stewart, dans un de ses plus beaux rôles, qui, n'étant pas très sûr de lui, décide quand même d'aller au bout de son travail, c'est-à-dire de défendre même éventuellement un coupable avec ce rapport étrange à Lee Remick. Très beau, c'est très beau.
Bon, Michel, tu le connais par cœur, ce film.
C'est un chef-d'œuvre absolu, c'est-à-dire c'est vraiment le grand film qu'on peut recommander sur un procès. On n'a jamais fait mieux. Preminger, c'est un de ses très grands films, mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le côté viennois. Il ne faut pas oublier que Preminger, comme Billy Wilder, comme Fritz Lang, vient de Vienne, et donc il a un rapport à la vérité et aux certitudes qui sont très fuyantes. C'est-à-dire pour eux, il n'y a pas, c'est pas des gens de notre époque. Il n'a pas la réponse à tout, il n'a pas le jugement facile. Il essaye de montrer la complexité, et le spectateur est toujours dans l'expectative, si j'ose dire. Prenons un exemple. Le point de départ, c'est le viol qu'aurait subi Lee Remick et qui justifierait la violence de son mari qui a tué l'homme qui l'aurait violé. Or, aujourd'hui, n'importe quel metteur en scène aurait montré le viol ou la tentative de viol, ce qui n'était pas possible à l'époque, mais au moins la tentative de viol. Donc, on saurait quelque chose. Or, Preminger se garde bien de nous montrer quoi que ce soit. C'est-à-dire que l'avocat lui-même qui défend ses clients ne sait pas si Ben Gazzara a été criminel comme ça par un coup de folie, ou si c'était au contraire prémédité, de même qu'il ne sait pas si Lee Remick n'est pas une fabulatrice. Donc il y a un doute permanent, ce qui n'empêche pas du tout que l'on doit exercer la justice, mais on doit exercer la justice avec une certaine expectative. Ce qui est passionnant aussi, c'est ce qu'il fait de ses comédiens. Comme le disait Camille Nevers, c'est vraiment deux générations, mais en même temps, il joue avec l'image de James Stewart, qui est une sorte, dans les films de Capra, qui est une sorte de vieux roublard, de malin, etc. Là, quand ça lui convient, il joue le roublard pour mieux embobiner le tribunal et les jurés. À d'autres moments, il est au contraire extrêmement lucide, etc. Donc, je trouve que c'est un film extraordinairement passionnant, avec évidemment la musique de Duke Ellington qui est magnifique. Il est resté tout le temps sur le tournage, il était là tout le temps. Et puis, il y a une fluidité, c'est entièrement tourné en décor naturel, ce qui n'était pas évident à l'époque à Hollywood. Alors évidemment, Camille Nevers dit que le film est bavard. Non, il est intelligent, surtout. Il est...
Ah, mais moi, j'adore les films bavards, j'en ai fait deux très bavards.
Oui, il est bavard. Il est bavard comme les films de Guitry sont bavards.
Ah, ben oui, j'adore.
Les films de Romer sont bavards, comme les films de Mankiewicz sont bavards. La parole au cinéma n'est pas rédhibitoire.
Xavier. Moi, c'est vrai que je ne l'avais pas revu depuis très longtemps, donc je me suis passionné à regarder ce que Michel soulignait, d'ailleurs, la beauté de la mise en scène, parce que décor naturel, mais décor confiné, on est dans la petite cabane presque de l'avocat tout au début du film, on est ensuite dans le prétoire, donc ce sont des lieux clos, des lieux fermés, il y a le bar dans lequel s'est déroulé le drame, et on s'aperçoit que, en fait, Preminger découpe assez peu son film, il préfère épouser des mouvements très fluides qui vont accompagner les personnages, qui vont passer de l'un à l'autre et qui vont aller chercher justement les contradictions, les ambiguïtés, les doubles faces, on va dire, de presque tous les personnages. Ce couple est étrange d'ailleurs, parce que cette femme qui a l'air comme ça de draguer tout ce qui passe, en particulier l'avocat de la défense de son mari, et son mari qui ne la regarde que très peu, il y a un couple qui ne se fait pas, qui n'est pas dans la passion, qui n'est pas dans la détresse, qui est dans l'indifférence pratiquement mutuelle. Donc déjà, ça apporte quelque chose au film de très étrange, parce qu'on s'attend toujours effectivement que la femme soit dévouée à son mari qui a commis un crime comme ça de justice, d'honneur, mais en même temps il l'a commis une heure après, donc effectivement toute la question est là, est-ce que c'est prémédité ou est-ce que c'est encore une heure après le drame du viol de sa femme, ou en tout cas de la révélation de celui-ci, une folie passagère. Donc il y a énormément de zones d'ambiguïté dans le film qui sont extrêmement bien travaillées par la mise en scène, par la manière d'isoler les personnages et de les rapprocher ensuite dans le cadre avec un mouvement unique. Donc vraiment la mise en scène de Preminger vaut énormément dans la réussite du film, bien évidemment. Et puis, c'est pas tout à fait un parangon de film de prétoire, parce que on sait qu'il a tué, on sait qu'il est coupable. La seule chose, et c'est plutôt l'autopsie non pas d'un meurtre, mais d'un système judiciaire, c'est comment essayer de prouver la folie de ce personnage-là, comment essayer de l'emporter effectivement dans le système judiciaire américain, en prouvant que ce type-là a agi sur un coup de tête. Non, non, c'est un film passionnant du début jusqu'à la fin, alors que tout est su, tout est donné, tout est connu du spectateur, et pourtant Preminger passe son temps à ouvrir des zones d'ombre, à ouvrir des choses très vertigineuses sur le système judiciaire et sur l'âme humaine. Donc, grand, grand film.
Il ne reste plus que Jean-Marc pour nous.
Oui, je vais aller plus vite, parce que je pense que je place le film moins haut que vous, même si j'ai eu un plaisir très, très vif à le revoir. Je crois, pour reprendre la distinction de Camille, que les films brunes d'Otto Preminger sont des objets de fascination plus forts pour moi que sa période 50-60. Mais malgré tout, je trouve le film vraiment très bien. Moi, je suis très sensible à la manière dont il peint une petite communauté d'outcasts à travers ce triangle formé par James Stewart, son comparse alcoolique et sa secrétaire qui n'arrive jamais à se faire payer. Il y a vraiment quelque chose de très sensible, de très tendre, et la dimension comme ça de comédie tendre est très réussie. La musique de Duke Ellington et la mise en scène extrêmement très liquide de Preminger, il y a quelque chose de l'ordre du swing dans le film qui est vraiment très beau. En même temps, pour moi, contrairement à ce qu'a dit Michel, je ne le mettrais pas au plus haut, y compris de la carrière de Preminger, dont je préfère Fallen Angel ou Laura.
C'est donc Autopsie d'un meurtre de Preminger, si on le dit à l'anglaise, de Preminger, si on le dit à l'autrichienne, avec, il faut le savoir, dans ce DVD... Carlotta, un documentaire très intéressant d'André Lavarthe qui est en supplément, qui date de 2012. Et puis aussi un reportage télévisé assez folklorique sur le tournage du film dans l'État du Michigan. La Dame d'11h, je dis bien La Dame d'11h et pas de 11h, un film de Jean Devèvre sorti en 1948. Je crois que d'ailleurs Jean-Marc était à la générale de ce film, réédité par...
c'est nouveau que l'humour, ça c'est neuf.
Réédité par Lobster en Blu-ray et DVD, dont le scénario est signé Jean-Paul Le Chanois, d'après le roman de l'oublié Jean Apestegui, avec Paul Meurice, Micheline Français, Gilbert Gilles, Pierre Renoir, après un séjour en Afrique, Stanislas Octave Seminario, alias SOS, c'est Paul Meurice, rentre en France et s'installe à la campagne dans le, la maison, j'allais dire le château, plutôt de Gérard Pescara, c'est Pierre Renoir, patron d'une entreprise pharmaceutique, père de Charles et de Muriel, laquelle Muriel est fiancée à un jeune pharmacien. Le décor est idyllique, mais l'atmosphère très tendue. Depuis un an, Gérard Pescara reçoit en effet de menaçantes lettres anonymes. SOS va alors mener sa propre enquête qui le conduira dans le nord de la France et dans une mystérieuse clinique d'aliénés. Quant à la dame d'11h, je ne vous dirai pas, vous non plus d'ailleurs, hein, ce qu'elle signifie. Ce sont les derniers mots de Charles Pescara avant de mourir empoisonné dans un taxi. Moi, j'ai été absolument frappé, je ne connaissais pas ce film, hein, par l'incroyable modernité de la réalisation. Il n'y a pas de générique début, c'est remplacé par un résumé assez sidérant, un raccourci, avec pendant le film des plans où les personnages parlent à la caméra, un montage très cut, bref. Pas du tout pour moi, dans sa forme en tout cas, un film de 48, mais un film beaucoup plus récent. Michel !
De Vèvre était tombé un peu dans l'oubli et il avait fait une dizaine de films assez médiocres, sauf deux, La Dame d'11h, justement, en 47, et aussi La Ferme des Sept Péchés. C'est Bertrand Tavernier qui, un peu la sorti avec son goût de la découverte, qui l'a sorti de l'oubli.
Dans Laissez-Passer, c'est même le personnage principal qui est joué par Jacques Gamblin.
Voilà, avec son ami Orange, qui est joué par Denis Podalydès, ils étaient tous les deux dans La Résistance. Alors, moi, j'ai revu le film, parce que je l'avais revu grâce à Tavernier, à l'époque, quand il a été ressorti il y a une vingtaine d'années. Je dois dire que j'ai été à la fois sensible, comme toi Jérôme, au côté un peu farfelu, au côté très libre de la narration, avec ce pré-générique d'ouverture. Et en même temps, j'ai tout de même un peu souffert, parce que même si le film est évidemment au-dessus de beaucoup de nanars de l'époque, je trouve que tout de même, il se ressent beaucoup de la diction, le côté très théâtral des comédiens. Alors là, je serais d'accord avec Camille Nevers. Là, je trouve que c'est assez bavard. Donc, j'ai pris du plaisir, mais étant donné le programme de ce soir, je dois dire que quand on le compare au chef-d'œuvre dont nous avons parlé...
Peut-être, mais Michel, c'est un film de 48. Moi, je suis très frappé, encore une fois, par la forme.
Mais les films de Preminger de 48, c'est les films de détectives, les films criminels qui sont d'une modernité incroyable. Cela dit, je conseille à tout le monde néanmoins de voir ce film très très surprenant et tout à fait inhabituel.
Jean-Marc ?
Moi, je serai encore plus sévère. Je trouve le film vraiment dénué de charme, alors même qu'on sent que c'est ce qu'il vise tout le temps. Et je trouve qu'il y a à la fois l'envie de mener un récit tant probatant, très très vite, extrêmement speed, et malgré tout, un résultat que je trouve extrêmement poussif, tant l'histoire est rocambolesque. Et je trouve, moi, la mise en scène m'a horripilé parce que je la trouve à la fois... Sa fantaisie ne repose que sur une accumulation d'idées. Tout à coup, on fait un plan en regard subjectif, tout à coup, un plan en caméra portée.
Oh non, c'est pas vrai, Jean-Marc.
Il n'y a jamais une seule idée au travail. Je ne trouve pas qu'il y ait une idée globale de mise en scène, mais juste l'accumulation de petits gadgets visuels qui n'empêchent pas le film, à mon sens, d'être, d'un point de vue formel, d'une très très grande platitude et en même temps avec trop de fioritures, ce qui est paradoxal. Et moi, j'ai été extrêmement gêné aussi par les acteurs, y compris des acteurs que j'aime bien, comme Jean Tissier, qui peut beaucoup me faire rire dans les films d'Henri Decoing, par exemple. Là je trouve, on est vraiment au boulevard, avec la même conscience de jouer pour un public qui, cette fois, serait derrière un écran, mais on a quand même toujours le sentiment que les acteurs jouent dans l'attente d'être validés par un éclat de rire, et ça se sent tout le temps, quoi, ce côté self-conscious, et qui consiste à appuyer sur tous les effets. Moi, je trouve le film assez horripilant.
Eh ben, tu me fais de la peine, Xavier.
Mais moi, j'aime bien le film. Je le trouve extrêmement sévère. C'est un film fauché qui a été fait vraiment avec les moyens du bord. Je crois qu'à part Paul Meurice, personne n'était payé, ou en tout cas vraiment au minimum syndical, et ils se sont remboursés puisque le film a été un énorme succès. Je trouve que ça a un charme fou. Oui, Jean-Marc, t'as pas tort. Il essaye plein de choses. Il y a une succession d'effets comme ça. Mais en même temps, je trouve que c'est ce qui donne son charme au film. Il y a des choses assez stupéfiantes. La reconstitution, justement, de l'histoire du père Pescara, qui n'est pas du tout le bourgeois aussi probe et aussi propre sur lui, que l'on veut bien croire, reconstitué à travers des gens comme ça, de façon quasi reportage, qui parle à la caméra et qui commence à raconter les zones d'ombre, ce que l'on sait, les petits secrets enfouis. Je trouve que c'est une scène assez saisissante. L'ouverture, vous l'avez pas assez détaillée, c'est-à-dire que passe le film à l'envers, c'est-à-dire que toutes les scènes sont montées à l'envers, y compris avec des faux indices, parce qu'il y a des plans qui ne se retrouveront pas dans le film plus tard. Donc ça instille déjà quelque chose d'un peu étrange, d'un peu mystérieux. On déchire des dossiers, on sort des voitures de l'eau comme ça, et puis on termine par une main étrange qui semble déterminer les personnages dans l'histoire qui va être la leur, comme ça, comme des espèces de marionnettes un peu macabres qui sont tendues.
Moi, je trouve ça hyper ringard.
Ah bah écoute, moi je sais pas, ça avait fonctionné il y a 20 ans, je suis ringard,
mais ça vous savez. Bon, non, Xavier ne dit pas ça, tu aimes India Song, donc t'es pas ringard.
Voilà.
Mais moi je fonctionne, donc bah oui, moi j'ai pris un certain plaisir, un peu vintage, un peu ringard, je l'assume, mais j'ai pris un certain plaisir à redécouvrir la Dame d'Onzeur.
Sans te voir, Camille, je sens que tu ne dois pas être loin de Jean-Marc.
Non, je suis tout à côté. Alors là, contrairement, mais ça, c'est sans doute véritablement un problème, les whodunits m'ennuient assez vite. Enfin, s'il n'y a que ça, de petites enquêtes et petites intrigues avec des mots d'auteur et des petits jeux d'esprit, franchement. Bon, ça ne m'intéresse pas trop d'agonir ce film qui n'en peut mettre, qui est peut-être une petite curiosité pour certains. Jérôme, apparemment, adore ça. Bon, la seule chose peut-être qui m'intéresserait dans ce film, c'est que j'ai l'impression que c'est un des premiers films cinéphiles. C'est-à-dire qu'il est nourri de beaucoup d'autres films qu'il aurait vus. Moi, j'ai pensé au 39 marches, par exemple, d'Hitchcock. Enfin,
Puis l'ouverture est un clin d'œil à Maurice Tourneur avec la main du diable.
Bien sûr.
Mais en fait, je trouve que c'est quand même que des mots d'esprit qui tombent très à plat, le pire de ce qu'on peut appeler les mots d'esprit de ce que Romer dégommait. Après, par exemple, moi, je pensais beaucoup à Chandler et à ce que l'Amérique avait produit comme adaptation de Chandler à peu près à la même époque et même avant. Alors, on avait deux exemples totalement différents. On avait La Dame du Lac, qui avait été fait complètement en caméra subjective, le film de Robert Montgomery, lui-même acteur, qui était totalement raté, pareil, sur le côté « on va faire un truc super original ». Vous allez voir, ça va dépoter. Puis au bout du compte, le film est purement un exercice de style vide et déjà vieilli avant même d'être sorti. Alors que par exemple, le film de Hawks, pour ne pas citer les grands, Le Grand Sommeil, on n'y comprend rien, un peu comme là. Moi, franchement, à la limite, j'y comprenais plus rien au bout d'un moment où je m'en foutais de qui il y avait des mois. Et bien, Hawks, au moins, on s'en fout de ne pas comprendre parce qu'il y a une caractérisation de chaque second rôle, de chaque personnage qu'on croise, type Humphrey Bogart qui croise Dorothy Malone dans la librairie. Enfin, tout d'un coup, il y a quelque chose de sexy et de vivant qui se passe. Et on a beau ne pas comprendre les tenants et les aboutissants du Grand Sommeil, c'est sublime. Alors que là, c'est juste une sorte de pochade de gens qui étaient jeunes et qui voulaient montrer qu'au sortir de la guerre, on pouvait faire des choses différentes, mais pas si différentes que ça. Et pour moi, la vraie inventrice de la jeunesse et de quelque chose de nouveau au cinéma, ça, il faudra attendre 52, et c'est Annette Vadement avec Jacques Becker et c'est Édouard et Caroline. Mais avant, il n'y a rien, quoi.
Bah, y a quand même Clouseau qui est arrivé un petit peu par là, quand même. Enfin, tu vois, il y a quelques personnes.
Qui ?
Clouseau, par exemple.
Oui, bon, je n'adore pas Clouseau. Mais non, mais.
Non, mais certains droits, mais on ne peut pas l'écarter d'un revers de main, quoi.
Tu vois Pierre Renoir dans La Nuit du Carrefour. Enfin, je veux dire, il y a 10 000 fois plus d'inventions dans La Nuit du Carrefour.
Je ne dis pas que c'est un chef-d'œuvre. Je dis que, quand même, c'est une gourmandise qui n'est pas désagréable. Voilà, c'est tout.
C'est du toc.
La Dame d'Onzeur, vous allez faire beaucoup de peine en plus à Bertrand Tavernier. C'est un film de Jean de Vèvre. Réédité chez
Lobster. On s'en remettra.
Oui.
On se rapproche de notre époque avec Noces Blanches, le film de Jean-Claude Brissot, ce cinéaste décédé le 11 mai 2019, dont je vous le rappelle, le nom et la photo ont été exclus de l'hommage aux disparus lors de la dernière et très houleuse cérémonie des Césars, ce qui a fait dire d'ailleurs à sa veuve qu'il avait été, Brissot, banni de la famille du 7e art et que c'était comme un coup de poignard, un crachat, une deuxième mort. Aujourd'hui, Carlotta ressort en Blu-ray et version restaurée, sans doute son plus gros succès, Noces Blanches, film de 1989. Est-ce que vous imaginez qu'il a fait 1 800 000 entrées? Je crois me souvenir que c'est le deuxième film français le plus vu de cette année-là, derrière Trop belle pour toi, avec Vanessa Paradis, dont c'était à 16 ans le premier rôle au cinéma, qui lui vaudra d'ailleurs le prix Romy Schneider et le César du meilleur espoir féminin. Elle y joue Mathilde Tessier, une lycéenne qui, dans un lycée de Saint-Étienne, vit une folle histoire d'amour avec son prof de philo, François Hainaut, 49 ans, marié, et qui est incarné par Bruno Kremer. 30 ans après, est-ce que ce film, selon vous, a bien vieilli? On va commencer avec Jean-Marc.
Bah, moi, à vrai dire, j'avais été déçu par le film à sa sortie, parce que lorsque je l'ai vu, je venais de découvrir le cinéma de Brissot avec son film précédent, De Bruit et de Fureur, qui m'avait énormément impressionné. Et là, je
qui ressort d'ailleurs, parenthèse, De Bruit et de Fureur ressort aussi en même temps qu'un jeu brutal.
Brutal qui est vraiment génial, mais que j'ai découvert après.
Chez Carlotta.
Et donc, Noces Blanches me semblait partir d'un scénario trop lourd, trop explicatif. Et je trouvais que dans cette espèce de tension entre le lourdingue et l'étrange, qui est souvent à l'œuvre chez Brissot, on basculait plus du côté d'une certaine lourdeur, notamment toute la backstory du personnage de Vanessa Paradis, sa prostitution, sa toxicomanie à 11 ans. Tout ça me semblait vraiment très, très appuyé. Et en le revoyant, je dois dire que mes réserves ont été quand même balayées et j'ai vraiment été happé par ce qu'imprime le film et uniquement par les moyens du cinéma. Pas tellement par ce qu'il raconte, mais vraiment ce qu'il fait passer uniquement par les corps, le corps massif, extrêmement lourd et rongé à la fois de Bruno Kremer et la peau diaphane, le côté blafard de Vanessa Paradis. Il y a dans leur face-à-face et leur affrontement désirant quelque chose qui touche au sublime. Et puis, surtout, la lumière. Pour moi, c'est vraiment une des plus belles lumières, une des plus... On est hanté par la lumière du film, qui est dans les ocres tout le temps. C'est à la fois un peu une scène religieuse, et le sujet du film, au fond, c'est le mysticisme, l'amour comme puissance mystique qui conduit à l'autodissolution du sujet. Et donc, il y a à la fois ce côté vraiment très religieux, mais aussi une lumière d'hôpital. On est vraiment tout le temps entre la scène religieuse, la Pietà, et une lumière très, très froide. Le film est vraiment extrêmement puissant plastiquement. Et l'émotion qu'il produit uniquement par ces moyens-là, finalement, a balayé tout ce que je trouvais vraiment trop appuyé dans le scénario.
Camille, j'imagine que tu l'as vu et revu, ce film de Brissot.
Oui, c'est un film que j'avais vu à l'époque et que j'ai revu à plusieurs reprises, parce que j'ai plusieurs fois parlé, écrit à propos de Brissot et jusqu'à sa mort dans Libé, où j'ai écrit la nécro. Et en fait, quand je revois le film, je trouve que c'est à la fois son film le plus honnête et le plus sincère. Et je ne sais pas si aujourd'hui il passerait tellement dans ce qu'il raconte, parce que c'est quand même une histoire de passion amoureuse entre un homme qui est Bruno Kremer, une sorte d'ogre bourru et professeur, et une jeune fille, son élève, qui est interprétée par la jeune et belle et grand succès à l'époque, grande vedette à l'époque de Vanessa Paradis.
Et tu penses qu'il y aurait un interdit aujourd'hui autour de cette idée-là ?
Ah bah c'est sûr qu'après toutes les affaires qui lui sont tombées dessus et pour lesquelles il a été condamné, Brissot, il ne faut pas oublier que lui, il a été condamné et qu'on ne peut plus aller lui faire le procès de quelque chose qui est resté en suspens. Contrairement à des cinéastes césarisés, lui, on l'a oublié au César, parce que justement, il y avait quelque chose chez lui de trop honnête dans son cinéma. Brissot est un de ces cinéastes qui a mis tout ce qu'il travaillait, tout ce qu'il brûlait dans ses films. C'est ça qui rend son travail à la fois magnifique, amoral et en même temps... très touchant encore, parce qu'en fait c'est à ça que lui sert le cinéma, une forme comme le Simone Veil qui est cité à plusieurs reprises dans Noce Blanche, c'est la pesanteur et la grâce, enfin ce qui est à la fois le tir vers le sublime et la tir vers la trivialité la plus immorale et passible parfois des tribunaux en effet. Simplement La vie comme ça, qui est un de ses premiers films, est un titre qui pour moi résume très bien tout le cinéma de Brissot, à savoir, comme dans le cours qui inaugure le Noce Blanche, Bruno Kremer fait un cours sur l'inconscient, savoir ce que c'est que l'inconscient, et ben on peut dire que le cinéma de Brissot, c'est la vie comme ça, mais comme ça, ça de l'inconscient, et que tout y est, avec tout ce qui est beau et tout ce qui est moche et de l'humain.
Michel,
ce rapport entre ce prof et cet élève, car il ne faut pas oublier que Brissot lui-même était prof, pendant très longtemps, c'était son métier quand il a commencé à faire du cinéma. Donc on retrouve le côté un peu, effectivement, de ce rapport avec l'auditoire. Quand la jeune fille parle, elle parle à son prof, en fait, et à sa classe. Lui, quand il parle à sa classe, il parle aussi à la jeune fille. Donc tout cela est magnifique. Et aussi, il y a le côté très terrien de Brissot et en même temps de très métaphysique. C'est-à-dire qu'on pense à Bernanos, il aurait pu faire « Sous le soleil de Satan ». Ce mélange de naturalisme, on pense à la peinture de Courbet, même les paysages, on pense à du Courbet, c'est très physique, c'est très ancré dans la réalité, et en même temps, il y a une soif d'absolu, encore une fois, qu'on retrouve chez Bernanos. Donc je trouve que c'est un film absolument magnifique, qui a été assez attaqué à l'époque, parce qu'on lui reprochait de prendre Vanessa Paradis, alors qu'en fait, Vanessa Paradis...
Oui, je remarque qu'aucun de vous ne parle d'elle, d'ailleurs, comme comédienne. Dont c'est,
non, enfin, elle est formidable. Elle est vraiment exceptionnelle.
Aucun de vous n'en a parlé encore. Hein.
Et à l'époque, le film avait été attaqué par pas mal de gens à cause justement d'une sorte de soi-disant opportunisme de Brissot, alors qu'il prenait quelqu'un de très contesté.
Laquelle, d'ailleurs, Vanessa Paradis a plus ou moins pris ses distances vis-à-vis de ce film, pour des raisons qui m'échappent. Xavier.
Elle a tort de prendre ses distances parce qu'elle y est absolument remarquable. Et je crois que c'est la seule fois où elle est absolument une comédienne à part entière, sublime de beauté, de grâce, de timidité. Elle est farouche, elle est entière, elle va draguer ce mec, elle le veut absolument. C'est elle qui va aller faire le chemin. C'est un film absolument magnifique aussi sur ce qu'est la morale, sur ce qu'est la morale de l'âme humaine, de notre morale, de la morale considérée comme admissible, on va dire, dans la société. Est-ce qu'une jeune fille de 17 ans peut sortir avec son prof? C'est la grande question. Et le film est taraudé comme ça par cette idée. Et en même temps, toute la mise en scène, comme l'ont très bien dit mes petits camarades, va dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'elle oppose des choses contradictoires, des contraires, à la fois dans la lumière, à la fois dans la mise en scène, à la fois dans le montage, à la fois effectivement entre le sublime et le trivial, comme le disait très bien Camille. Et voilà, vous avez tout dit. C'est un film, moi, qui me bouleverse. J'avais vu la première fois et je pense que j'avais été un tout petit peu voir le film en disant non, c'est pas possible, Jo le taxi, elle va pas pouvoir tenir le film. Et effectivement, ouais, il y a de l'opportunisme de la part de Brissot. Et quand j'étais sorti la première fois du film, je m'étais dit non, ce qu'il fait d'elle est absolument extraordinaire. Ce qu'elle lui offre, ce qu'il arrive à sortir d'elle est impressionnant. Il ose le lyrisme en plus, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un film qui aurait pu être un mélo simple, un mélo comme ça à ligne droite unique, c'est un mélo torturé, c'est un mélo où le lyrisme apparaît de temps en temps quand Vanessa Paradis fait son exposé sur l'inconscient justement, et que ça se termine sous des applaudissements des élèves avec une musique un petit peu comme ça en envolée. La scène pourrait être extrêmement casse-gueule et elle ne l'est pas du tout, et c'est là où on voit le grand travail, la grande maîtrise de Brissot qui ose des choses assez inconsidérées à l'écran et en même temps ça fonctionne à chaque fois. Enfin, à chaque fois, je trouve que c'est d'une beauté, ça torture, ça bouleverse, ça remue. Et juste un mot pour conclure, parce qu'elle est dans le film et que je l'aime beaucoup, il y avait Véronique Silver, que je trouve une actrice absolument formidable, qui est une espèce de confidente à l'intérieur de cette tragédie.
Madame et
qui
est un...
Oui, y a, absolument, qui était Madame Zouf dans La femme d'à côté.
Il y a aussi dans le rôle de Madame Hénault, la femme de Kremer, ma chère Ludmila Mikael.
Oui, Ludmila,
qui est très, très bien.
Qui est une comédienne du français que j'ai beaucoup applaudi dans ma vie. Donc, c'est Noces Blanches, c'est Jean-Claude Brissot. Ça ressort chez Carlotta avec précisément en supplément des entretiens avec Brissot, avec Ludmila Mikael, avec Bruno Kremer, mais pas avec Vanessa Paradis. Quand je parlais de distance, c'en est un peu la preuve. Avec, je le rappelle également chez Carlotta, la ressortie de Deux bruits et de fureur et de Un jeu brutal. Vous écoutez bien Le Masque et la Plume dans sa version téléphonique, confinée, obstinément dominicale, et plus que jamais d'ailleurs attaché à ses auditeurs pareillement confinés. On continue, on va prendre un rythme un peu plus rapide pour évoquer Terreur sur le Britannique, film catastrophe et britannique signé de l'américain Richard Lester, le réalisateur de Superman 2 et 3, qui date de 1974 et qui ressort chez Wildside en Blu-ray et DVD avec Richard Harris, Omar Sharif, David Hemmings, Anthony Hopkins, Shirley Knight, Ian Holm. Le Britannique est un paquebot de croisière commandé par Omar Sharif, déjà là il y a un petit problème, qui vogue sur l'Atlantique en direction de New York avec ses 1200 passagers, quand le directeur de la compagnie, c'est Ian Holm, reçoit un appel d'un inconnu qui annonce avoir piégé le navire avec 7 barils de TNT et qui exige 500 000 livres dans les 22 heures qui suivent. Scotland Yard parachute alors un commando chargé de déminer le Britannique, et tout ça sur fond de tempête Force 10. On ne vous dira pas, contrairement à Titanic, comment ça se termine, mais vous allez me dire, à part Camille qui ne l'a pas vu, ce que vous en pensez. Xavier ?
Bon, c'est l'anti-film catastrophe, c'est-à-dire que c'est pas comme le Poséidon, le bateau n'est pas frappé par une lame de fond qui le coupe en deux.
Non, mais ça se présente comme un film catastrophe quand même, hein.
Bien sûr, non, mais tu as tout à fait raison. Mais en même temps, la catastrophe est sans cesse différée parce qu'effectivement, on va tout faire pour déminer ces fameuses bombes qui ont été posées par un terroriste dont on découvrira l'identité à la fin. L'identité n'est pas inintéressante d'ailleurs sur l'idée d'une revanche un peu prolétaire. Mais je n'en dirai pas plus. De toute façon, c'est pas très intéressant dans l'intrigue. La deuxième partie, c'est le film classique. On a les bombes. on les ouvre avec beaucoup de minutie, on détaille avec des gros plans le petit canif qui va dessiner une à une les petites vis, et puis ensuite on va retirer machin le truc pour en arriver au fameux fil rouge, fil bleu. Bon, tout ça m'intéresse plus beaucoup parce qu'on l'a tellement vu et revu que franchement, voilà, ça a pris un petit coup de vieux. En revanche, la première partie, elle est assez saisissante. Est-ce que c'est le scénario? Est-ce que c'est la mise en scène de Lester? Il faut dire que le producteur était également le scénariste du film. C'est un peu difficile de distinguer, mais je trouve qu'il y a une partie critique et cynique sur ce paquebot luxueux où on déverse de la bouffe. Il y a des scènes comme ça, des gros plans sur le gâchis alimentaire. On sait dès le départ qu'il y a des failles dans les machines, qu'on a acheté des trucs à bas prix, que le gros paquebot luxueux, en fait, il est déjà un tout petit peu croupi de l'intérieur.
Sans avoir de virus. Hein.
Sans avoir de virus, voilà.
Un paquebot sans virus.
Et puis, il y a vraiment la distinction entre les classes prolétaires qui travaillent en bas, qui sont les petites mains, les ouvriers, les serveurs, et puis en haut, une classe bourgeoise un peu indifférente, y compris au sort qu'il attend, puisque très rapidement, ils vont apprendre qu'ils sont en train de naviguer sur les bombes. Il y a une scène de bal comme ça, triste, mais étrange, fantomatique, qui fonctionne vachement bien. Personne n'a l'air ni inquiet, ni de s'amuser. Et je trouve qu'il y a un moment comme ça d'intensité et de tension assez rarement atteinte. Et puis, il y a quand même une grande scène, je m'arrêterai là, qui est celle où, effectivement, on va larguer les démineurs sur le bateau en pleine tempête. Et là, en termes de montage et de découpage...
Ça t'a plu, ça, hein?
Mais ça a une gueule folle. C'est absolument génial. Je ne sais pas comment il a tourné, parce que les mecs sont vraiment projetés contre la carcasse du bateau. Et ça a une vraiment... Bon, le film est efficace, mais assez classique.
Reste une question, en tout cas pour moi, c'est que moi, je ne sais pas ce que vous avez pensé, mais moi, je n'ai pas eu peur. Je veux dire, ça ne crée pas un suspense... ni horrifique, ni très inquiétant.
Non, pas du tout, mais je suis pas sûr que ce soit ce que ça vise.
Jean-Marc ?
J'aime plutôt le film aussi, pour son côté anti-spectaculaire, et c'est pas du tout un film qui joue sur l'adrénaline. C'est un film de critique sociale, et d'une critique sociale assez corrosive, comme l'a dit Xavier. Et sur la pollution, sur le gaspillage, sur la domination, c'est très bien observé. Et il y a des enfants assez mal élevés, qui sont des personnages secondaires du film, et qui jouent tout le temps au Mikado. Et je pense que la figure du Mikado, c'est vraiment la figure qui organise le film. Et le film ne s'intéresse que... C'est un exercice de démontage de rouages très très complexes. C'est le travail des démineurs sur les bombes, c'est l'enquête policière, c'est les tractations entre le gouvernement et la direction de l'entreprise autour de la rançon. Et donc le film est très froid, très spectaculaire, mais c'est un film vraiment d'analyse sur des mécanismes sociaux, politiques, purement techniques, comme ce qui constitue une bombe et comment on peut la désamorcer. Et cette espèce d'aridité, finalement, je la trouve au final assez séduisante.
Qu'est-ce qu'on pense à positif de Terreur sur le Britannique ?
Ben écoutez, c'est pas seulement ce qu'on pense à positif, c'est surtout ce qui me frappe. C'est comment un cinéaste qui était considéré pendant une quinzaine d'années comme un des plus grands cinéastes au monde, qui a eu la Palme d'Or à Cannes, qui avait des critiques dithyrambiques pour ses films, que ce soit Les Trois Mousquetaires, que ce soit Petulia, qui est un chef-d'œuvre du cinéma américain, ce cinéaste britannique né en Amérique, qui est Richard Lester, soit aujourd'hui quasiment complètement oublié. Ça me paraît hallucinant, et évidemment j'ai revu avec énormément de plaisir ce film, qui mélange le grand, c'est-à-dire cette opération de déminage, avec deux personnages qui prennent au sérieux leur travail, c'est-à-dire d'une part le terroriste et d'autre part le démineur, et puis autour d'eux, qui sont vraiment appliqués à leur tâche, il y a toute une succession de petits personnages qui cultivent le spleen, la monotonie, l'ennui, qui ont un état nauséeux, qui essayent de se distraire en jouant sans y croire, qui font des bals masqués. Donc là, on est dans l'infiniment petit. Je trouve que cette peinture totalement à contre-courant du film Catastrophe, c'est ce qu'on disait au début, me ravit. C'est-à-dire que Lester a essentiellement travaillé sur des genres, mais comme tous les gens qui s'attaquent au genre, c'est un formaliste. C'est-à-dire que ce qui s'intéresse, lui, c'est la mise en scène, c'est-à-dire de déjouer l'attente du spectateur, de le surprendre en permanence et d'éviter tout ce qu'il peut y avoir de côté aseptisé, stéréotypique. Donc c'est une peinture corrosive de l'Angleterre qui va vers son naufrage. C'est les années 70, l'Angleterre était en crise. Et ce qui est amusant aussi, c'est que le capitaine du vaisseau, c'est-à-dire le capitaine de l'Angleterre, c'est un acteur arabe, Omar Sharif.
Qui sort tout droit de Lawrence d'Arabie. C'est donc Terreur sur le Britannique, c'est chez Wildside, et c'est signé Richard Lester. Ragtime de Miloš Forman, le réalisateur de Vol au-dessus d'un nid de coucou, sorti en 1981. avec James Caney, Mary Steenburgen, Elizabeth McGovern, mais aussi parmi beaucoup d'autres. Hein. Il y a énormément de comédiens. Samuel Jackson, dans un de ses premiers rôles au cinéma, et même furtivement le romancier Norman Mailer. Une plongée que j'ai avoir du mal à résumer dans le New York des années 1906-1914, où s'entrecroisent plusieurs histoires, dont l'authentique assassinat de l'architecte Stanford White, qui est joué justement par Mailer, par un milliardaire, l'histoire inventée d'un immigré juif d'Europe centrale qui devient réalisateur, on pense à Forman évidemment, celle encore d'une famille bourgeoise qui découvre dans son jardin un bébé abandonné par une jeune domestique noire, ou encore ce jeune noir, pianiste de jazz et de ragtime, qui s'achète une voiture neuve et alors qu'il s'apprête à se marier, est salement, je pèse mes mots, prise à partie par des pompiers blancs et qui va tout faire pour que justice lui soit rendue. C'est un film de 2h36 qui ressort chez Arte Édition. Michel.
Oui, c'est un film de Forman qui a été assez mal accueilli. Pour, je crois, une raison principale, c'est que le producteur Dino De Laurentiis trouvait le film trop long. Il faisait 3 heures, il lui a demandé de couper 20 minutes, en particulier tout ce qui concerne Emma Goodman. D'ailleurs, dans les bonus du film, on voit une scène qui a été coupée entre Emma Goodman et Evelyn Nesbitt. Donc, c'est un film, à mon avis, passionnant et qui ne pouvait être fait peut-être aussi crûment que par un exilé du communisme. Car Forman a raconté souvent que lorsqu'il vivait en Tchécoslovaquie, les gens puissants et ignorants n'arrêtaient pas d'humilier les citoyens tchèques qui ne leur plaisaient pas et que les autres ils ne pouvaient pas risquer leur vie, ils devaient la fermer. Et là, évidemment, à travers cette peinture de ce noir qui refuse de nettoyer lui-même les excréments que des pompiers ont mis dans sa voiture, c'est la révolte d'un personnage humilié qui cesse d'être humilié. Et c'est un des premiers films, à mon avis, où un noir est présenté de façon aussi rebelle, et il devient d'ailleurs terroriste. Moi, j'ai énormément aimé ce film. D'abord, je pense que Forman est un des rares cinéastes qui n'a jamais raté un film. Et donc, c'est d'une maîtrise étonnante, avec un acteur à l'époque totalement inconnu, qui d'ailleurs n'a pas fait une grande carrière, Howard Rollins, qui joue Cole House Walker, c'est-à-dire ce noir refusant de nettoyer sa voiture. Et le film est passionnant.
Camille, pardon, je vous précipite un peu. Camille.
Oui, alors ce film, je l'ai vu à sa sortie, j'ai un souvenir, puisqu'on est tous confinés, et c'est vrai que des films comme les films de Duras, ça doit être très difficile de voir sur un ordinateur ou un écran HD. Il faut voir une salle de cinéma, et La Pagode, c'était la salle de cinéma, mes parents m'avaient emmené voir Ragtime à La Pagode, avec ses étoiles au plafond, enfin ça m'avait beaucoup marqué, et le film, je ne l'avais jamais revu. Je ne me souviens pas ce que j'en avais pensé à l'époque, je crois que j'avais été assez séduite par toute une partie, par exemple Ragtime, je ne savais pas ce que ce mot signifiait, j'étais vraiment môme. Et cette musique, qui est quand même assez magnifique et qui veut dire ce qu'elle veut dire, à savoir que c'est le temps en lambeaux. Et le film est assez passionnant. Alors, il a un côté qui est toujours pour moi la limite chez Forman, un côté éléphant blanc sans accroc, c'est somptueux, c'est rutilant. Il y a une grande prestance et une énergie démontrée, déployée immense. Après... ce qui l'intéresse, lui, c'est la folie. On parlait de la folie tout à l'heure du procès. Là aussi, il y a un enjeu sur la folie d'un procès après le meurtre de Norman Mailer, là, de ce personnage tué d'une balle dans la tête en plein Madison Square Garden. Et en fait, pour moi, le grand, grand film de Forman sur la folie, ce n'est pas Vol au-dessus d'un nid de coucou ou Amadeus, enfin tous ces fous qu'il a pu filmer, c'est Man on the Moon, qui est un film que j'adore vraiment, qui est pour moi un film, c'est le grand film de Forman. Ragtime est un très beau film parce qu'en fait, il est très surprenant. Moi, d'abord, j'avais complètement oublié qu'il y avait James Cagney, c'est son dernier rôle. Et il y a comme ça aussi une espèce de rapport à la saga, un peu comme on faisait à l'époque, ces films saga, comme Léon a fait après avec Il était une fois en Amérique ou Cotton Club. Enfin, comme ça, on voyait effectivement, comme disait Simon, émerger des personnages de noirs, comme ça, qui étaient dans des choses de droit civique très nouveau au cinéma. Il y avait guère eu que Le soldat noir de Ford, enfin, il n'y avait pas eu grand-chose jusque-là. Et le film va vers cette espèce de dernier acte qui dure des plombs, qui dure une Shredder, qui est toute la deuxième partie, avec le clan de terroristes encapuchonnés qui retournent le Ku Klux Klan de leur côté, qui sont enfermés dans leur librairie, et avec le siège de ces flics, dont James Cagney est le chef. Et c'est très beau, enfin, cette espèce de façon de faire durer tout d'un coup le temps, qui n'est plus dans une syncope, qui est le temps du ragtime, mais qui est dans un temps de théâtre et de beauté dramatique. Ça, vraiment, je trouve que le film gagne.
Alors, je t'interromps pour le donner à Jean-Marc et à Xavier la parole rapidement.
Je vais aller assez vite. Jean-Marc. C'est vraiment un très beau film sur la barbarie dans la civilisation et sur les fondements criminels de la société américaine du XXe siècle. Je trouve que le film est un peu bancal, mais d'une très très grande puissance dans ce qu'il dit, dans sa lecture critique de l'histoire, et la manière dont il organise l'affrontement entre la justice et la loi, une loi qui peut être injuste, et dont il décline ça en conflit individuel pour chaque personnage, c'est vraiment très puissant.
Xavier.
Bah, moi, je l'avais vu à sa sortie, j'avais adoré, évidemment, pour tous les thèmes.
À la pagode
Pas à la pagode, bizarrement pas. Je crois que j'avais été à Montparnasse, si mes souvenirs sont bons, parce que j'habitais entre les deux exactement. J'habitais à Duroc avec mes parents à l'époque, donc on s'est peut-être croisés avec Camille.
Mais oui.
En le revoyant, je suis à la fois tout à fait séduit parce que vous avez dit le lyrisme, la saga, l'ampleur du récit, effectivement. Et en même temps, je me dis que c'est quand même quelque part un grand film malade, au sens que Dino De Laurentiis a un tout petit peu massacré le film. On ne verra jamais le film dans l'état dans lequel Forman le rêvait. Il y a un peu trop de scènes de reconstitution luxueuse, sans que Laurentiis, qui avait mis l'argent sur la table, s'est dit non, il faut quand même que je montre tout le fric que j'ai dépensé. Donc il y a des scènes de rue que je trouve dramaturgiquement un tout petit peu pauvres, un petit peu floues. Et il faut attendre la dernière partie du film, effectivement, sur sa sécheresse, sur son découpage beaucoup plus froid, beaucoup plus mécanique, qui est celle, effectivement, où ils sont enfermés, pour que le film prenne complètement son envol et son ampleur. Je trouve qu'il y a quand même deux, trois intrigues un peu afférentes. Des personnages oubliés, j'aurais aimé qu'on travaille un petit peu plus le personnage du blanc qui va devenir noir, entre guillemets, qui va épouser la cause, en tout cas de la révolte du personnage principal, qui aurait mérité, à mon sens, d'être plus travaillé parce que très intéressant, très complexe et qui est un peu sacrifié. Donc, grand film pour moi, comme l'ont dit mes petits camarades, mais quelque part aussi grand film malade.
Ragtime de Miloš Forman qui ressort chez Arte Éditions encore plus rapidement. Pour finir l'émission, c'est le moment de la vérité, film espagnol de l'Italien Francesco Rosi, un film sans scénario préétabli ni acteur professionnel qui date de 1965 et qui ressort en DVD et Blu-ray chez Studio Canal. Le film raconte l'ascension vers la gloire des arènes d'un jeune homme très pauvre, paysan andalou puis prolétaire barcelonais, qui est devenu torero. L'idée est née d'ailleurs d'un voyage en Espagne, l'Espagne franquiste, de Francesco Rosi, qui travaillait alors au montage de Main basse sur la ville, quand il est parti filmer les fêtes de la Saint-Firmin à Pamplune avec le célèbre Miguelín dans le rôle évidemment du torero, film que je ne conseille pas personnellement à ceux qui, comme moi, ont un petit problème avec la corrida. Vous me dites ce que vous en pensez rapidement, Xavier.
Je déteste la corrida et j'adore ce film que je ne connaissais pas. Je pense qu'on doit ce choix à Michel, qui est un grand fan, à juste titre, de Francesco Rosi. Je l'ai découvert. Je trouve que c'est un film presque documentaire, néo-réaliste, âpre, méchant, extrêmement politique, qui raconte l'Espagne, mais pas l'Espagne nécessairement franquiste, qui raconte vraiment l'Espagne dans sa culture, dans sa contradiction. On part sur une procession religieuse pour en arriver à l'autre procession religieuse, qui est celle, effectivement, de la corrida. Le personnage principal est passionnant. La manière dont il vient de sa campagne, la manière dont on reconstitue son milieu, agriculture, agraire, le prolétariat de la terre, et ensuite il va finir par exploiter d'autres personnes une fois que la fortune sera venue. Enfin voilà, il y a une vraie ascension politique et sociale du personnage, outre le fait qu'il devienne un grand torero. Et je trouve que Rossi a une façon de tourner en scope, en découpant, avec un montage très âpre, très cut, très intéressant. Moi, c'est un film qui m'a emballé.
Jean-Marc.
Moi, je trouve ça très beau aussi, extrêmement poignant. C'est étonnant qu'avec aussi peu d'informations romanesques sur un personnage, aussi peu de notations psychologiques, qui le fasse exister aussi fortement uniquement par la présence physique de l'acteur. Il devient un grand torero, mais il ne cesse jamais d'être filmé comme le taureau, comme le corps sacrifié qui va être exécuté par un organisme social. C'est vraiment très très beau.
Et Michel ?
Là aussi, c'est un film qu'il faut redécouvrir, puisque on avait été surpris par le côté, effectivement, semi-documentaire et très linéaire de cette histoire, alors qu'en fait c'est un thème propre à Rosi, c'est-à-dire c'est une réflexion sur un cadavre. Tous les films de Rosi commencent par une réflexion sur un cadavre, que ce soit Carmen, que ce soit l'affaire Mattei, que ce soit Calavreschi, tous ces films. Et là, évidemment, ce n'est pas un acteur, c'est un vrai torero qui, avec El Cordobés, a renouvelé la corrida en Espagne. Donc, il l'a pris comme comédien pour jouer ce rôle. Évidemment, il n'est pas mort dans l'arène, mais dans le film, il meurt.
On ne sait pas
ce qui va lui arriver. On ne sait pas
oui, mais
tout.
Ce qui est important, Rosie, effectivement, fait un film sur la corrida. Et en même temps, il n'adhère pas à la corrida. Il montre comment la corrida, c'est pour le peuple espagnol une façon de chercher dans cette corrida une réponse à son angoisse de vivre. C'est-à-dire que ce n'est pas pour rien que l'ouverture, c'est la Semaine Sainte à Séville, avec des pénitents représentant l'Église, évidemment, et l'armée de Franco. C'est-à-dire, voilà un peuple qui est soumis à deux tyrannies, la tyrannie de l'Église, la tyrannie des militaires, et pour la corrida est pour eux un exutoire. C'est un film magistral du point de vue visuel. On n'a jamais filmé la corrida de cette façon.
Et enfin, le sentiment de Camille.
C'est un film très impressionnant, parfois difficile à regarder. Enfin, moi, j'ai effectivement pas de sympathie spéciale pour la mise à mort des animaux, mais là, c'est la force de Rossi, qui a toujours été la même, c'est de filmer comme ça des corps bruts, opaques de héros malgré eux. Enfin, il y a ce côté à la fois sacré de la corrida qu'on retrouve dans toute une tradition, Hemingway ou Boetticher et tout ça, et en même temps la critique de ce monde assoiffé de sang, parce que le moment de la vérité, c'est le coup de grâce. Hein, faut expliquer quand même que c'est quand à la fin le taureau est mis à mort. Donc c'est effectivement un face à face entre le torero et le taureau qui est très brutal. Il faut quand même reconnaître que le film restitue une brutalité absolue. Et en même temps, cette sauvagerie-là est mise en regard avec la sauvagerie. C'est une bombe sexuelle, cet acteur. Enfin, cet acteur qui n'en est pas un, d'ailleurs, qui était un torero.
Non, qui est torero.
Et on dirait vraiment un acteur de chez Pasolini, un ragazzo. Il est filmé avec un érotisme, mais j'ai rarement vu ça. Enfin, il y a des scènes, même avec les quelques. Une sorte d'homosexualité, parfois avec les femmes, enfin, quelque chose où il aurait pu presque filmer les scènes de sexe jusqu'au bout. Enfin, c'est une bombe de brutalité belle avec ce côté
concret. Remets-toi, Camille, remets-toi.
C'est vraiment incroyable. Je pense que...
Et puis, il y a aussi dans le personnage une mélancolie qui est propre à tous les hommes d'action chez Rosie.
C'est donc le moment de la vérité de Francesco Rosie qui ressort, film de 65, qui ressort chez Studio Canal. Le temps est venu des conseils DVD, VOD, séries, même livres, ce que vous voulez. On commence avec Camille.
Chez Criterion, un DVD qui est sorti il y a quelques semaines et qui n'a pas du tout fait parler de lui, le film de John Sayles, Matewan, qui est son troisième film, et John Sayles est un cinéaste américain dont il faut absolument découvrir enfin à quel point c'est un grand cinéaste, un des plus grands cinéastes américains vivants. Donc ça, c'est Matewan qu'il faut voir chez Criterion, une histoire de grève de mineurs. Ensuite, No Sex Last Night de Sophie Calle, film très rare de 96, plasticienne, artiste, qui a fait un seul film dans sa vie, qui est visible sur le site de la Galerie Perrault, qu'il a mis en libre accès pendant le confinement. Et enfin, pour se venger des méchancetés dites contre Duras la semaine dernière, des journées entières dans les arbres sur le site de l'INA qui s'appelle Madeleine. Il suffit de se connecter, on est en accès libre avec la sublime Madeleine Renaud, la sublime Bulogier et le sublime Jean-Pierre Aumont.
Donc je passe à Jean-Marc forcément la parole.
Alors j'avais prévu pour marquer mon opposition scandalisée par ce qui a été dit par trois collaborateurs du Masque il y a 15 jours. Pour moi, Il y a Sang était un des plus beaux films français, que c'est à la fois un des plus beaux films de fantômes qui soit et un des plus beaux films sur le cinéma comme art de convoquer les fantômes, et que Duras est une très 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 grande cinéaste.
L'Orsay dit que c'est le Sayat Nova français.
On se calme.
Voyez Il y a Sang.
Le conseil de Michel.
C'est deux livres écrits par des écrivains, des essayistes, et l'un d'eux est photographe. L'un, c'est Alma a adoré Psychose en l'héritage, et l'autre, c'est Sur ses traces de Thierry Clèche. L'un est sur Psychose et l'autre sur Vertigo. Deux livres que je recommande, très brillants tous les deux, publiés chez Marais.
Le conseil de Xavier.
Une série télé, je vais conclure comme cela, une série qui a été extrêmement bien défendue d'ailleurs dans les colonnes des Inrecuptibles et qui s'appelle Mrs. America, 9 épisodes disponibles depuis la semaine dernière sur Canal+ série et qui raconte l'avènement, l'émergence des mouvements féministes dans les années 70 aux États-Unis à travers une candidate noire et puis une femme réac qui est dans le camp adverse. Et cette femme comme ça, réac, que rien ne pousse à aimer et à apprécier, mais perclue en même temps de contradictions, est interprétée par la géniale Cate Blanchett, qui a accepté ce rôle pas favorable, on va dire, mais qu'elle campe dans la moindre de ses nuances et de ses complexités. C'est une grande, grande série sur l'avènement donc, du féminisme, et c'est une grande série contemporaine parce que la place des femmes aux États-Unis, près de 45 ans plus tard, hélas, n'a pas beaucoup bougé.
Tous ces conseils, vous les retrouvez sur la page du Masque et la Plume franceinter.fr. Merci beaucoup, malgré des conditions téléphoniques un peu tempétueuses. Merci Camille Nevers, Xavier Le Herpeur, Jean-Marc Lalanne et Michel Simon pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lysiane Selam et réalisé depuis sa salle de billard par l'excellent Xavier Pistuggia. Je vous dis à dimanche prochain, 11h et 20h, pour un masque littéraire sur France Inter, évidemment.